Ça veut dire que la chaîne de commandement à l'intérieur de l'armée n'est pas rétablie. Comme tous les appareils d'État maliens, elle était profondément corrompue, d'une part. D'autre part, il n'y avait peut-être pas de très très grande motivation pour intervenir militairement au point de risquer sa vie. Et puis encore, il faut reconnaître que le 33e régiment composé de parachutistes était les éléments les plus aguerris et les plus convaincus aussi à une intervention militaire. Le coup d'État a mis complètement sur la touche les bérets rouges. Certains d'entre eux, pour ne pas dire la totalité, ont été cantonnés, voire emprisonnés. Et la situation nouvelle depuis, disons, 8-10 jours a fait en sorte que les bérets rouges ont été libérés et pour certains d'entre eux réintégrés dans l'armée. Une partie d'entre eux a accepté le commandement, la direction des bérets verts et une autre partie n'a pas accepté, d'où l'affrontement qui a eu lieu. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème de leadership et de pouvoir au sein de l'armée malienne qui est quand même assez disloquée et très affaiblie. Tant que ce problème-là n'aura pas été résolu, ce sera difficile de parler d'un retour à une armée malienne nationale.
Quelles conséquences sur le front au nord ?
C'est encore un affaiblissement et ça veut dire que l'armée malienne est un peu discréditée et qu'on ne la prend plus tellement au sérieux, d'autant qu'elle n'a pas fait les preuves de ses capacités à intervenir sur le septentrion malien. Parce que si l'armée malienne avait fait cette démonstration-là, l'intervention des militaires français n'aurait pas eu lieu. Donc il y a manifestement une faiblesse structurelle. C'est inquiétant parce que ça veut dire aussi que c'est une armée qui n'a plus le sens de défense de la patrie. Si à l'intérieur d'une armée on privilégie des corporatismes, ça veut dire que quelque part les militaires maliennes n'ont plus de recours et de représentation à ce que c'est qu'une armée nationale qui doit défendre la patrie.
Est-ce que la guerre sur le front dans le nord du pays a hystérisé la situation et l'affrontement entre les bérets verts et les bérets rouges ?
Je pense que ça a eu une incidence, mais le fond du problème, c'est lorsqu'il y a eu une entente formelle qui a contribué à faire en sorte de prendre la décision de libérer les bérets rouges et de les réintégrer dans l'armée. Et c'est là où les conflits d'intérêts, les conflits de leadership, les conflits de pouvoir sont apparus, au détriment de ce que doit être une armée nationale.
C'est de mauvais augure pour le Mali, pour prendre le relais après les forces occidentales dans le nord du pays ?
Une armée nationale divisée à ce point, avec le problème du septentrion, où il semblerait quand même que les autorités politiques et militaires françaises jouent la carte du mouvement national de libération de Dadjawad, qui lui dit qu'il ne veut pas de militaires maliens ni de militaires de la CDAO sur le territoire qui continue à appeler Dadjawad. C'est pas très simple, pas du tout. Puis les ennemis, ça veut dire les groupes armés djihadistes, le MNLA, vont s'appuyer sur ces dissensions-là pour pouvoir s'affirmer. Le président de transition, le professeur Donkunda Traoré, est aussi, j'insiste sur le aussi, chef des armées. Il est dans une situation politique assez fragile, compte tenu du fait qu'il a des difficultés à affirmer son pouvoir de président. Et certaines personnes, peut-être le capitaine Sanogo, le neutralisent dans les fonctions qui lui sont attribuées. Ça veut donc dire que les problèmes d'ordre politique au Mali ne sont toujours pas résolus. C'est à l'issue de rapports de force militaires entre les bérets rouges et les bérets verts que peut-être émerger quelqu'un qui serait susceptible d'affirmer son autorité et de redresser ce qui se passe à l'intérieur de l'armée.